BW. Droits et libertés.
Quand on demande à Vincent Cochetel ce que travail humanitaire signifie, il répond, je cite, « Le travail humanitaire, c'est un travail d'assistance auprès de populations en danger ou de personnes dans le besoin. Ça peut être très local comme ça peut être international. » Et lui, Vincent Cochetel, c'est justement cette voie-là qu'il a choisi d'emprunter. Depuis plusieurs décennies, il travaille comme responsable pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au fil de sa carrière, il a connu différentes affectations. Il a dû faire face à de nombreux dangers. Lorsqu'il travaillait dans le Nord-Caucase, par exemple, à la fin des années 1990, Vincent Cochetel a été kidnappé et retenu en otage pendant plus de 300 jours en Tchétchénie. Malgré tout, après sa libération, il a décidé de continuer à travailler pour le HCR. Vincent Cochetel est notre invité cette semaine. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde.
Allô.
Bonjour, monsieur Cochetel.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, c'est Sandrine Blanchard de la Deutsche Welle. Pour commencer, peut-être, donc, qu'est-ce qu'on entend par travail humanitaire? Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est vrai que la notion n'est pas forcément définie. C'est un travail d'assistance auprès de populations en danger ou auprès de populations dans le besoin. Ça peut être très local comme ça peut être international.
Et alors vous travaillez pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Comment est-ce qu'on arrive dans ce genre de structure?
On arrive dans ce genre de structure après avoir acquis de l'expérience ailleurs, pour moi auprès d'une ONG avant, une organisation non gouvernementale. Et puis après, c'est un peu un choix de vie, hein, parce que ça veut dire s'expatrier, aller dans différents pays. Certains où on peut travailler, amener sa famille, d'autres où on ne peut pas amener sa famille. Et bon, c'est des expériences de terrain, parfois dans les capitales, parfois beaucoup plus isolées, dans des régions proches des frontières, là où se trouvent les réfugiés.
Et selon vous, quelles sont les qualités qu'il faut posséder pour être travailleur humanitaire?
L'idée d'aider d'autres personnes dans une situation de besoin, c'est bien, c'est déjà un moteur, mais ça ne suffit pas. Faut amener des compétences de fond, souvent spécialisées. Donc on peut très bien avoir besoin de spécialistes en eau ou en assainissement. On peut très bien avoir besoin de spécialistes en logistique. Dans mon cas, j'ai plutôt une formation un peu généraliste en matière de protection. Donc le travail de protection, c'est un travail d'intervention avec les autorités, de diplomatie.
Est-ce qu'il y a des difficultés aussi psychologique à ce métier qui peut être beaucoup plus complexe dans la réalité que ce que s'imaginent des gens qui voudraient embrasser cette carrière?
Oui, donc il y a beaucoup de gens qui ne restent pas après une première expérience de terrain. Les gens changent d'avis, s'aperçoivent que c'est pas du tout ce qu'ils ont rêvé ou qu'ils se sentent impuissants, qu'ils n'apportent rien en fait aux populations dans le besoin. Je crois qu'il faut une bonne dose d'humilité pour pouvoir d'abord écouter les gens, observer les gens et voir comment concrètement on peut apporter des réponses qui ont du sens pour le quotidien de ces personnes. Donc il faut sans arrêt répondre aux besoins vraiment en fonction de ce qu'ils sont à un moment donné. Et ces besoins varient beaucoup. Donc il ne faut pas là encore partir avec des schémas préétablis, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. Il faut les associer aux décisions.
Et comment on fait justement pour ne pas relativiser les principes moraux, éthiques avec lesquels on s'engage quand on est en prise avec la réalité qui est beaucoup plus cruelle, des conflits, des violences souvent insupportables psychologiquement, j'imagine, quand on en est le témoin, voire la victime?
Absolument, on absorbe beaucoup, donc il y a beaucoup de traumas secondaires, parce que toutes ces histoires, toute cette humanité déchirée, ben, quelque part ça nous impacte, ça ne nous laisse pas indifférents, donc il y a aussi beaucoup de besoins de bien-être et de suivi psychologique au niveau des collègues, en particulier dans certaines situations qui sont dangereuses, difficiles.
Et comment parvenez-vous individuellement et en tant que que groupe, en tant que personnel, à résister à la violence que vous subissez, c'est-à-dire à la fois aux éventuelles attaques. Vous-même avez été victime d'un kidnapping, avez été retenu en otage, mais aussi de la violence des scènes dont vous êtes les témoins, de la violence des situations des personnes que vous devez aider. Donc cette nécessaire résistance psychologique pour ne pas vous écrouler vous-même et l'empathie nécessaire à une aide, à une écoute.
Oui, absolument. Bon, on a des mécanismes de formation un peu pour ça, et puis on a une aide psychologique qui est disponible auprès de collègues qui ont été formés pour la procurer, ce qui est utile. Ce qu'il faut convaincre les collègues souvent plus jeunes, c'est de ne pas hésiter à parler des problèmes auxquels ils font face et comment ils les vivent. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à évacuer ces traumatismes secondaires. Sur le plan de la protection, la situation se complique. On est beaucoup plus professionnel qu'on était il y a quelques années. Mais dès lors qu'un certain nombre de groupes à travers le monde, surtout sur le continent africain et au Moyen-Orient, ont décidé que les travailleurs humanitaires étaient aujourd'hui des cibles légitimes, c'est très très difficile aujourd'hui de se protéger et d'opérer dans certaines zones où malheureusement on ne peut plus intervenir.
Et est-ce que vous diriez qu'il est bon de mettre de côté ses propres convictions politiques, religieuses peut-être, quand on s'engage dans ce type de travail, pour éviter les biais peut-être ?
Oui, bon, faut éviter un petit peu ces biais, faut éviter toute forme de, bien entendu, de préjudice ou de présomptions qui sont pas souvent justes. Je crois qu'il faut effectivement mettre de côté ses propres idées politiques, religieuses ou autres, mais en même temps, bon, on forme un tout, on ne vient pas à ce travail par hasard.
Et puis, il y a eu aussi des précédents malheureux dans l'aide humanitaire. Alors évidemment, il y a eu des exemples de corruption, de détournement de fonds, ou aussi des ONG qui, sous couvert de travail humanitaire, ont commis des actes. Je pense notamment, par exemple, à des ONG d'adoption, comme l'Arche de Zoé au Tchad, qui étaient répréhensibles par la justice. Comment est-ce que vous parvenez à convaincre de votre bonne foi et du fait que vous n'êtes pas là pour profiter des populations bénéficiaires ?
Bon, tout à fait. Bon, ben, faut travailler là-dessus. Donc, c'est les mécanismes de communication. C'est important vraiment de discuter le pourquoi des choses, pourquoi on fait ce travail-là, comment les populations affectées par les guerres, par les persécutions nous voient, où on n'est pas simplement là pour leur passer de l'information, mais aussi pour recevoir de l'information d'eux. Donc il faut des mécanismes de plainte indépendants en place, ce qu'on essaie de mettre en place effectivement pour pouvoir prévenir mais aussi lutter contre tout dérapage sur le plan éthique, toute mauvaise conduite qui affecterait le bien-être des populations qu'on est censé servir. Parfois même nos personnels sont référés aux autorités locales pour des poursuites judiciaires. Ça arrive, c'est malheureux, mais c'est la nature humaine.
Est-ce que des fois, vous n'avez pas l'impression de faire office de pansement là où des États faillissent ?
Absolument. Parfois, on n'a pas l'impression d'avoir une très grande prise sur les solutions. Alors, je vous parlais de la Côte d'Ivoire. C'est un pays sur lequel on va travailler. Il y a encore des réfugiés ivoiriens dans un certain nombre de pays limitrophes. Là, il y a un véritable dialogue politique. On va essayer de trouver des solutions pour ces réfugiés ivoiriens. La plupart veulent rentrer chez eux, d'autres pourront rester dans leur pays où ils se sont établis depuis des années. Mais il y a beaucoup de situations, malheureusement, où on ne voit pas de solution politique. On voit une détérioration des conflits. Et malheureusement, nous, on est là pour répondre à des besoins humanitaires. On n'a pas pris sur les acteurs politiques qui pourraient changer ça.
Et vous pensez toujours que même une vie de sauver, c'est déjà ça ?
Oui, c'est ça. Je crois qu'on a... On a la responsabilité d'essayer de faire quelque chose. On n'y arrive pas toujours. Mais pour moi, quand une famille, quand un individu, quand un groupe de personnes peut être sauvé et qu'on a le moyen de le faire, ça nous motive pour continuer. Malheureusement, il y a des gens pour lesquels on ne peut rien faire, ou parce qu'on n'a pas accès, ou parce qu'on n'a pas eu l'information à temps. Et malheureusement, on laisse beaucoup de gens derrière qu'on n'a pas pu protéger de la manière dont on aurait dû le faire. Mais il ne faut pas que ça nous décourage, il faut continuer. Je veux dire, ces populations-là ont besoin de gens qui sont là pour essayer de les protéger et répondre à leurs besoins et pour leur donner une voix par rapport aux États sur les territoires desquels ils se trouvent.
Vincent Cochetel, un grand merci.
Merci beaucoup.
Merci bonne à journée. Vous. Au revoir.
Au revoir.
C'est la fin de ce magazine. Merci encore à Vincent Cochetel du HCR pour podcaster Droits et Libertés. Rendez-vous sur notre site internet dw.com/français à la rubrique Nos podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.
Ça n'arrive pas aux autres. De moi, de tout le monde, ça peut faire baisser.